Amen. Bonsoir encore une fois. C'est une grâce, un privilège pour nous de nous tenir encore une fois devant le peuple de Dieu réuni ici présent, enfin de partager sa parole. C'est vraiment un privilège que je ne prends pas pour garanti. Et je remercie encore une fois l'Éternel pour cette occasion qu'il nous accorde de nous utiliser afin que nous puissions parler de sa part. Je remercie encore une fois nos autorités qui ont voulu que ce soit moi qui puisse encore une fois partager la parole en ces jours. Et le passage que nous allons encore une fois étudier ou méditer ce soir, c'est le premier chapitre du livre de Josué. Je vais lire, c'est un long passage et après nous allons prier. Josué chapitre 1, je vais commencer à partir du premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne subsistera devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Verset 10, alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit, « Passez au milieu du camp et commandez au peuple en disant, « Josué parla aussi aux Ribénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé et leur dit, « Souvenez-vous de ce que vous a commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, en disant, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. » Vos femmes, vos petits-enfants et votre bétail demeureront au pays que Moïse vous a donné de l'autre côté du Jourdain, mais vous, vous passerez en armes devant vos frères, tous les hommes forts et vaillants, et vous les aiderez. Jusqu'à ce que l'Éternel ait donné du repos à vos frères comme à vous, et qu'eux aussi possèdent les pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne, puis vous retournerez au pays de votre possession et vous les posséderez, celui que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain vers le soleil levant. Et ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as commandé et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse, seulement que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi comme il a été avec Moïse. » Tout homme qui sera rebelle à ton commandement et n'obéira point à tes paroles, en tout ce que tu nous commanderas, sera mis à mort. Fortifie-toi seulement et prends courage, parole du Seigneur, prions. Dieu notre Père, nous humilions encore une fois devant toi ce soir, parce que nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous venons devant toi avec une soif de t'écouter, d'écouter de ta part, et nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient réellement cette terre fertile où tu vas encore une fois planter cette parole, afin qu'elle puisse porter des fruits, Seigneur, et des fruits qui demeurent, et des fruits qui vont te glorifier, Seigneur, dans nos vies, dans notre monde, dans notre Église. Dieu, je prie pour moi-même, tu as choisi à ce que je puisse encore une fois donner ce message, et je prie, Père éternel, que tous les mots qui vont sortir de cette bouche, Seigneur, soient inspirés par toi, Seigneur, que je puisse, Seigneur, diminuer, afin que toi, Seigneur, tu puisses être élevé encore une fois en ces lieux, car c'est dans les noms précieux de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, Comme je suis en train de le dire, nous remercions encore une fois Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de parler de sa part ce soir, mais aussi pour la grâce qu'il nous accorde à nous tous d'écouter tous ces messages. Parce que ces messages ne sont Nous avons vu combien il était important pour nous d'exercer notre foi. Le thème d'hier était une question et nous avons vu, la question c'était de savoir quel est le problème, où se trouvent les problèmes aujourd'hui. Et nous avons vu qu'il était important pour nous de chasser les doutes afin d'expérimenter en abondance ce que Dieu a en réserve pour nous. Parce que notre capacité à expérimenter les bénédictions cela. Quand nous mettons vraiment notre confiance en Dieu, quand Dieu devient notre tout en tout, nous devenons des agents de transformation dans un monde qui souffre de toutes sortes de maux. Et ceci constitue exactement une introduction parfaite pour ce deuxième message. Parce que la conclusion du message d'hier nous montre que les privilèges que Dieu nous accorde en nous donnant son Esprit Saint à travers notre nouvelle naissance en Christ vient avec une responsabilité. Nous avons parlé des eaux qui coulent du temple dans Ézéchiel chapitre 47 et ces eaux-là, c'était des eaux de vie qui donnaient cette vie partout où elles passaient. Quand elles sont entrées en contact avec une mère morte, avec une mère qui avait des eaux impures, à cause du contact de ces torrents-là, ces eaux ont été purifiées. Vous pouvez les lire dans Ézéchiel chapitre 47. Et ces torrents-là, ces eaux vives, représentent le peuple de Dieu qui prend à cœur la responsabilité que nous avons d'être des agents de transformation ou si vous voulez, de restauration partout où Dieu nous a placés. Jean chapitre 7, c'est là que nous avons fini hier. Chapitre 7, verset 38 dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Nous qui avons cru, nous avons l'Esprit de Dieu en nous et des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Mais quand les fleuves d'eau vive coulent d'une source, ce n'est pas la source qui bénéficie de ces eaux vives. Ce sont les récipients qui bénéficient des eaux vives qui viennent d'une source. Et donc quand l'eau vive coule de nous, ce n'est pas pour notre propre bénéfice, mais c'est pour les bénéfices des autres. C'est pour celui des autres. Et donc ma vie et ta vie sont comme une lumière pour un monde qui est en perdition et qui recherche la bonne voie. Et en ce jour particulier, le thème dont nous allons parler, c'est de savoir quelle est la part de Dieu et notre part dans la restauration de la nation. Quelle est la part de Dieu et notre part dans la restauration de la nation? Une nation dont nous n'avons plus besoin de présenter les mots. Vous connaissez tous la situation de notre pays. Nous n'avons plus besoin de présenter les mots tellement qu'ils font la une de tous les journaux à travers le monde. Les journaux à travers le monde parlent du Congo, mais ce n'est pas dans les sens positifs, ce n'est pas dans les positifs. On ne parle que de la corruption, des massacres à répétition, des guerres qui sévissent dans ces pays, de la pauvreté, de la quasi-absence des infrastructures pouvant permettre à notre peuple de vivre une vie décente. Tous les secteurs dans ces pays sont malades. Ils sont malades. La santé, l'économie, la sécurité, l'éducation, les transports, les médias. Vous voyez, des fois, on voit des images de la RTNC. Tout le monde s'en moque, mais ça devait nous choquer. Ça devait nous faire mal. Parce que le secteur des médias aussi est malade. Le secteur de l'énergie. Nous sommes dans un pays qui est à 80% dans le noir parce qu'on n'a pas d'électricité à 80%. Tous les secteurs sont malades. Mais vous et moi, nous avons vu hier que nous servons un Dieu qui est capable de changer même les situations les plus désespérées. Nous avons dit que les circonstances difficiles, les situations difficiles sont une terre fertile pour lui afin qu'il puisse accomplir des miracles. Et c'est même Dieu qui a restauré nos cœurs, afin que nous soyons en relation avec lui. Il est également capable de restaurer notre nation, aussi malade qu'elle soit. Il en est capable. Mais il ne peut pas le faire si nous n'acceptons pas de collaborer avec lui, afin que ses desseins s'accomplissent dans notre pays. Nous devons collaborer. Dieu agit au travers des hommes. Il agit au travers les personnes qu'il a créées. Et le premier chapitre de Josué que nous venons de lire va nous guider dans ce voyage de découverte de ce que la part de Dieu est la nôtre dans la restauration de la nation. La restauration signifie simplement la remise à l'état d'origine. Ça veut dire que c'est quelque chose qui devait fonctionner de cette façon, mais à cause d'une certaine malfonction, elle ne fonctionne pas telle qu'elle devait le faire. Et pour la ramener à son état d'origine, on la restaure. C'est ça la restauration. Et le plan restauratif de Dieu pour ses enfants et même pour la nation dont nous sommes les enfants de cette patrie se résume très bien dans les paroles de Jérémie, le prophète, dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, où Jérémie dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix, c'est plusieurs projets, pas un seul. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan. Il veut que nous puissions vivre dans la paix. Il veut que nous puissions expérimenter le shalom, cette harmonie-là. Il a un plan pour un avenir, pour que nous ayons de l'espérance. Mais ce plan-là ne sera pas manifeste, ne sera pas effectif si nous ne collaborons pas avec lui. Et dans notre cas individuel ainsi que celui de la nation, le plan restauratif de Dieu est généralement subdivisé en trois étapes. La première étape, c'est la délivrance. La délivrance. Parce qu'il est difficile pour nous de restaurer la nation tant que nous-mêmes, nous sommes encore enchaînés. Nous voyons que l'histoire que nous venons de lire commence après que les enfants d'Israël aient d'abord été délivrés de l'esclavage en Égypte, n'est-ce pas? C'était la première étape de la restauration de cette nation-là. Il est difficile de restaurer la nation tant que nous-mêmes, nous sommes encore enchaînés aux antivaleurs et aux monstres qui font souffrir ces pays. Tant que nous-mêmes, nous sommes encore une fois des personnes qui font partie du système qui fait que ce pays demeure dans la pauvreté, demeure dans les gouffres. Et donc la première chose vraiment pour que ce pays soit restauré, la première étape de tout plan restauratif de Dieu, c'est la délivrance. La délivrance. Dieu doit nous délivrer. Dieu doit nous délivrer personnellement, individuellement, afin que nous puissions dire non aux antivaleurs. Dieu doit nous délivrer de notre propre ambition, afin que nous puissions aussi voir les intérêts des autres. Dieu doit nous délivrer de nous-mêmes. La deuxième étape du plan restauratif de Dieu, c'est le développement. Parce qu'après que le peuple d'Israël ait été délivré de l'esclavage en Égypte, il est passé par le désert. 40 ans. 40 ans où Dieu était en train de les façonner, de les transformer, de les préparer, d'enlever les choses qui pouvaient leur empêcher vraiment d'être effectifs pour la destinée qu'il avait pour eux. Il les a donc développés. Quelqu'un a un jour dit que Dieu, avant d'utiliser un homme puissamment, les brise profondément. Il les brise profondément. Et c'est le cas même du pétrole. Je ne sais pas si vous savez que le pétrole ou l'essence que nous utilisons, quand il est extrait, il est à l'état brut. Il faut d'abord qu'il passe par une raffinerie, n'est-ce pas? On doit d'abord les raffiner pour que nous puissions l'utiliser dans nos moteurs, dans nos machines, ainsi de suite. C'est ça le développement. Il fallait que le peuple d'Israël, d'ailleurs, quand ils entraient dans le désert, c'était encore un peuple divisé, un peuple qui murmurait à chaque instant, un peuple, une nation qui n'était pas vraiment en convergence. Et donc, il fallait qu'ils passent par ces moments-là de raffinement pour qu'enfin, ils puissent s'approprier des promesses que Dieu avait pour eux. Ils sont donc passés par l'étape du développement, du raffinement, si vous voulez. Et la troisième étape, c'est la destinée. La destinée, parce qu'après la délivrance de l'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël venait de la saison de développement à travers son passage de 40 ans dans le désert où Dieu les a raffinés. Et à présent, c'était une nation capable de conquérir la terre promise qui était pour ce temps leur destinée divine. Pour eux, leur destinée, c'était cette terre-là, la terre promise. Et c'était ça, le plan de Dieu pour eux. Et donc, c'est là que l'histoire commence et c'est là que le Seigneur approche Josué, qui était le successeur désigné de Moïse, et lui fait un appel personnel. Dieu fait un appel personnel à Josué, qui avait été choisi comme étant le successeur de Moïse. Et verset 1er de Josué chapitre 1 dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Quelle parole! Mais il faut voir les contextes dans lesquels Dieu approche Josué. Je ne sais pas si vous aviez... Il y a un documentaire que j'ai suivi, il est sur YouTube. C'est un documentaire de Mamadou, le commandant, le lieutenant-colonel Mamadou. Et le documentaire se termine au moment où Mamadou est assassiné. Et on montre l'image de tous ces jeunes soldats qui étaient les compagnons de Mamadou dans sa lutte. On voit le désarroi de ces jeunes soldats quand ils ont vu combien leur commandant, ce symbole-là, cet homme fort, venait de périr. Ils ont pleuré, ils étaient sous le choc. Ils étaient tellement accablés. Et je pense que Josué était dans les mêmes états ici, quand Dieu l'approche. Parce que Moïse venait de mourir. Après la mort de Moïse, Dieu vient devant Josué et lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort, il ne va plus revenir. » En d'autres mots, le temps du deuil et du doute est passé. Ton heure est arrivée de faire ce à quoi j'étais préparé pendant ces 40 ans, lorsque tu étais encore dans l'ombre de Moïse. Je sais que tu es encore sous le choc de la disparition de ton maître, mais il est temps pour toi de surmonter la peine et l'insécurité d'être son successeur et d'aller dans ta destinée. Dieu approche Josué dans ce moment où il est vraiment accablé et le fortifie. Et lui rappelle que le temps du deuil est passé. Il faut maintenant que tu surmontes cette peine, que tu surmontes cette peine afin de faire quoi? D'aller dans la destinée que j'ai pour toi. Bien-aimé, Dieu a de merveilleuses promesses pour nous et pour notre nation. Mais pour que nous puissions nous approprier de ces promesses-là, nous devons tourner le dos au passé. Nous devons tourner le dos au passé. Il est vrai que c'est très important pour nous de nous rappeler du passé afin d'en tirer des leçons, mais il n'est pas bon d'y demeurer. Parce que quand on y demeure, on peut oublier ce à quoi Dieu nous appelle maintenant. On peut oublier ce à quoi Dieu nous appelle maintenant. Il est tout à fait possible de rater complètement ce que Dieu veut accomplir maintenant parce que nous sommes encore dans l'euphorie peut-être de nos anciens succès, les joies de l'année passée, où nous sommes encore sous la peine de nos anciens échecs, de nos blessures, de l'amertume, des rancunes de l'année écoulée. Et donc, si nous voulons vraiment aller de l'avant dans ce à quoi Dieu nous appelle maintenant, nous devons tourner le dos au passé. Parce que tant que nous portons encore le fardeau du passé, il nous sera difficile d'être efficace pour ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous sera difficile d'être efficace pour ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. L'appel de Dieu à Josué est l'appel que le Seigneur a encore une fois pour nous au début de cette année. Je ne sais pas quels sont tes succès de l'année passée ou quels sont les fardeaux que tu portes de l'année passée, mais il est temps de regarder de l'avant, de tourner le dos au passé. Parce que si nous voulons être efficaces, nous devons nous décharger des fardeaux, des peines, peut-être des blessures, de l'amertume et des rancunes de l'année passée. Nous devons faire notre deuil, que Dieu nous aide à faire notre deuil, afin d'aller de l'avant. L'appel que Dieu fait à Josué est l'appel que Dieu fait à nous aussi aujourd'hui. Et donc le Seigneur est en train d'inaugurer une nouvelle ère et il veut que nous puissions en faire partie. Il voulait que Josué en fasse partie et il veut que nous puissions en faire partie aujourd'hui. Mais pour que nous soyons effectifs, nous devons faire fi de ce qui est passé. Nous devons tourner le dos au passé. Moïse était mort, mais le travail de Dieu devrait continuer. Parce que le travail de Dieu ne dépend pas de ses ouvriers. Le travail de Dieu ne dépend d'aucun de ses ouvriers, même des plus forts. Le travail de Dieu va. Autre chose à noter, c'est que Dieu est tout à fait au travers de nous, afin que dans notre faiblesse, sa force puisse être encore manifestée, sa gloire puisse encore une fois être éclatée. Et le Seigneur continue à parler à Josué en lui rappelant de la promesse qu'il avait faite à ses peuples. Et la façon dont il le dit devrait vraiment nous réjouir, parce qu'il continue en disant, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël. Je donne, c'est au présent. Ça veut dire que c'est à eux déjà. Je donne. Verset 3, il dit, tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit. Donnez au présent. En d'autres mots, ce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël était déjà accompli. Légalement, cette terre était déjà la leur. Mais ils devaient maintenant se l'approprier littéralement par leurs actes de foi. Je crois que cette année peut être l'année où Dieu veut rendre manifeste ce qu'il a promis pour ma vie et pour la tienne. Mais pour cela, pour que cela arrive, la condition se trouve dans nos pieds. Nous devons nous mettre à l'action. Nous devons nous mettre à l'action. Imaginez un parent qui paye les études de ses enfants. Vous savez, les enfants, ils viennent des fois chez les parents quand ils disent « Bon, ils nous demandent la première tranche. » Ils viennent chez papa ou maman, ils disent « Bon, il y a un communiqué de l'école qui dit que nous devons payer la première tranche. » Maintenant, essayez d'imaginer un parent qui anticipe sur ces frais scolaires-là. Il paye tout dès le début de l'année. Il paye tout. Ça veut dire que pour ces enfants-là, l'éducation est gratuite. Parce que papa ou maman a déjà tout payé. Il a déjà tout payé. Mais maintenant, si ces enfants-là ne se présentent pas au cours, si ces enfants-là n'étudient pas, si ces enfants-là ne font pas leurs devoirs, ils vont échouer, n'est-ce pas? Bien que leurs parents ont tout payé, ces enfants vont échouer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas appropriés de ce qui leur a été donné. Ils vont inévitablement échouer de s'approprier de l'éducation gratuite que leurs parents ont initiée en leur faveur. Ce n'est pas que la faveur que leurs parents leur ont accordée a échoué, mais ce sont les enfants qui ont échoué de se l'approprier. Ils ont échoué de se l'approprier. Et c'est la même chose pour nous et Dieu. Ces promesses pour les enfants d'Israël étaient déjà là. Légalement, cette terre était la leur. Mais ils devaient se l'approprier par leurs actes de foi pour rendre cette promesse littérale. Dieu délivre, il développe, il a une destinée pour chacun d'entre nous ainsi que notre nation. Ses promesses sont certaines, mais leur accomplissement dans notre vie dépendra toujours de notre réponse à ces trois importantes questions. Et ces questions-là, nous devons y répondre individuellement, mais aussi collectivement. La première question, c'est de savoir, est-ce que nous disons oui à sa délivrance? Est-ce que nous avons déjà été délivrés? Est-ce que nous sommes en train de demander à Dieu de nous délivrer des choses qui nous empêchent de vivre la destinée qu'il a pour nous? La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes prêts à développer notre foi en allant à son école? En les laissant nous façonner de la manière dont il veut, afin que nous soyons effectifs pour ce qu'il a en réserve pour nous. La troisième question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes engagés à vivre en fonction de la destinée qu'il a pour nous? Parce que la destinée qu'il a pour nous, oui, nous la connaissons, c'est le ciel, mais il veut également que nous puissions vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité. Il veut que nous soyons cette expression-là du royaume de Dieu ici sur terre. C'est ça, vivre à la lumière de l'éternité. Parce que l'un des maux dont ce pays souffre, c'est parce que nous avons beaucoup de personnes en position, mais ce sont des personnes qui ne voient que le présent. Ce sont des personnes qui veulent accumuler maintenant, mais ne voient pas que leurs actions sont en train d'impacter ce qui vient après. Et c'est à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, c'est de vivre aujourd'hui à la lumière de l'éternité, afin que les actes, que notre vie puisse impacter positivement des générations et des générations après nous. C'est ça, vivre à la lumière de l'éternité. Et ces trois questions, je suis en train de les dire, doivent trouver réponse à la fois individuellement pour chacun d'entre nous, mais aussi collectivement. Parce que la restauration de la nation commence par des individus. Toi et moi, nous sommes des agents de restauration. Mais elle continue aussi avec des groupes d'individus, collectivement, nous tous. Et ces deux catégories-là, c'est ce que nous allons appeler par la suite des personnes et les peuples. Parce que c'est ce que Josué chapitre 1 nous présente. Josué chapitre 1 nous présente un personnage, il nous présente une personne, Josué. Mais ce même chapitre nous présente aussi un peuple que Dieu va utiliser pour la restauration. Et maintenant, je vais donner le profil des genres de personnes que Dieu utilise pour la restauration de la nation. Parce que le premier chapitre de Josué, comme je viens de le dire, nous présente à la fois le profil d'une personne, Josué, mais aussi les caractéristiques d'un peuple que Dieu utilise pour la restauration. Et nous allons aller en détail demain sur notre sacerdoce, donc les genres de personnes que nous devons être. Mais aujourd'hui, nous allons juste voir quel genre de personne Josué était. Quel genre de personne Josué était. La première chose que nous pouvons voir sur Josué, c'est que c'était quelqu'un, une personne qui était en synergie avec Dieu. Il était en synergie avec Dieu, en collaboration avec Dieu. Avant même de venir devant la nation et de dire, bon, voici mon plan d'action pour cette nation. Avant de dire, voici mon plan d'action pour cette nation, Josué était le genre d'individu qui se posait la question de savoir quel est le plan de Dieu pour ce peuple dont Dieu m'a rendu responsable. Quel est le plan de Dieu pour ce peuple dont Dieu m'a rendu responsable? Ce genre de personnes qui sont en synergie avec Dieu savent qu'aucune tâche alors, aucun projet aussi important et sacré qu'il soit, ne doit être entamé sans la conviction que c'est réellement ce que Dieu veut que nous fassions. Sans la conviction que c'est réellement ce que Dieu veut que nous fassions. Mais comment pouvons-nous savoir ce que nous voulons accomplir, que ce que nous voulons accomplir est en synergie avec la volonté de Dieu? Comment nous pouvons le savoir? Deux choses. La première, c'est quand ce que nous voulons faire est basé sur ce que Dieu nous commande dans sa parole. Quand Dieu approche Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits. Première chose, c'est ça. Ça doit être basé sur ce que Dieu nous commande dans sa parole. La deuxième chose, c'est d'analyser profondément nos motivations pour savoir si nous ne voulons pas juste faire les choses par orgueil ou par intérêt personnel. Il faut que nous puissions analyser nos motivations parce que des fois, nous voulons nous lancer dans les choses juste pour que les gens puissent nous voir, juste pour que les gens vont tout étiqueter. Et donc, nous devons regarder encore en nous-mêmes, sonder nos cœurs et voir si est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir faire ces choses par orgueil ou par intérêt personnel en pensant que c'est la voix de Dieu qui est en train de nous les commander. Nous devons vraiment analyser nos motivations. Et tout cela se fait en passant du temps dans la méditation de la parole, dans la prière, dans les services. Un grand homme a un jour dit que cette valeur-là, d'être en synergie avec Dieu, cette valeur-là, nous devons encore une fois nous y accrocher. Plus nous montons en responsabilité, plus nous devons nous accrocher à cette valeur-là. Plus nous avons des responsabilités, plus nous devons faire tout pour être en synergie avec Dieu. Parce que c'est quelque chose de tout à fait qui arrive souvent quand on a beaucoup de responsabilités, on n'a plus de temps pour Dieu. On n'a plus de temps pour passer du temps dans la parole de Dieu, on n'a plus de temps pour prier, on n'a plus de temps pour méditer la parole de Dieu. Plus on monte dans des responsabilités, on devient busy. Et il y a même un autre homme qui a dit que quand le diable n'arrive pas à te faire pécher, il va te rendre occupé. Il va te rendre très occupé, tellement que tu n'auras plus le temps d'écouter de la part de Dieu. Tu n'auras plus le temps de prendre le temps de te mettre à genoux et de demander à Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand le diable n'arrive pas à te faire pécher, il te rend très occupé, très occupé. Et ce grand homme a continué en écrivant que, imaginez un grand rocher, une grosse pierre. Ce grand rocher-là, quand il est fait tomber dans une piscine ou dans une flaque d'eau, ce grand rocher-là, quand il tombe sur une flaque d'eau, les jets d'eau sont très grands, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme quand tu fais tomber un petit caillou comme ça. Il n'y a pas un grand impact. Mais quand c'est grand comme ça, et tu fais tomber ça dans l'eau, les jets d'eau vont partout et ils touchent même les personnes qui sont autour de cette flaque d'eau. Et c'est la même chose pour nous quand nous montons en responsabilité. Plus nous avons des responsabilités, plus notre impact aussi s'accroît. Dans les bons comme dans les mauvais. Dans les bons comme dans les mauvais. que nous le voulions ou non, à partir du moment où Dieu nous élève, nous avons de l'influence sur les autres. Nous avons de l'influence sur les autres. Et par conséquent, nous n'avons plus le droit de penser seulement à nous-mêmes. Nous devons toujours nous poser la question de savoir quelle influence mes actions, mes paroles sont en train d'avoir sur ceux qui me suivent. Parce que c'est le poids qui vient avec la responsabilité. Plus nous montons en responsabilité, plus notre impact devient encore plus grand, consciemment ou inconsciemment. Et nous sommes tous responsables. Dieu nous a donné une responsabilité, nous en tant que son peuple. Il a dit, vous êtes le sel du monde, la lumière de la terre. Et donc nous avons une influence. Le monde attend avec ardemment la révélation vraiment des fils de Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de l'influence que nous avons partout où nous sommes. Et donc plus nous montons en responsabilité, plus notre impact devient encore plus grand. Et c'est là que nous devons vraiment faire tout. Pour rester en synergie avec Dieu. C'est la première chose que nous voyons chez Josué. La deuxième chose que nous voyons, c'est que ce sont des personnes qui sont prêtes à agir en fonction des instructions reçues de Dieu. Josué a reçu une instruction de la part de Dieu et il a agi en fonction de cette instruction-là. Le verset 10 de Josué chapitre 10 dit, de Josué chapitre 1, pardon, dit, « Alors Josué, après qu'il ait passé du temps dans la présence de Dieu, après qu'il ait reçu les instructions claires de la part du Seigneur, il est passé à l'action. Alors Josué donna des ordres aux officiers du peuple et dit, et c'est là qu'il a commencé à passer de l'action, des personnes qui sont prêtes à agir en fonction des instructions reçues de la part de Dieu. Et ce n'est pas facile de passer à l'action. Beaucoup de gens ne veulent pas passer à l'action. On écoute des messages et des messages, mais on ne veut pas agir. Parce que ce n'est pas facile aussi de passer à l'action quand on compte les prix à payer. Les prix à payer. Parce que si nous voulons restaurer une nation aussi malade que la nôtre, il y a un prix à payer. Et quand on évalue les prix à payer, beaucoup de gens se disent, « Eh ouais, il y a qui est tout ville. Il y a qui est tout gisiviko. » Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2 dit, c'est vraiment des versets qui viennent juste après une liste des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Et maintenant, on parle maintenant de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 12, verset 1 dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. » Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes délivrés. Nous venons de voir d'autres qui l'ont fait. Courons avec persévérance. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, quand il a vu la vision de la délivrance de l'humanité, quand il a vu combien l'acte qu'il allait poser allait être bénéfique pour le monde, il a décidé de souffrir la croix. Il a payé les prix, il est passé à l'action, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nombreux ont peur de passer à l'action à cause du prix à payer. Mais Josué n'était pas de ces gens-là. Il est passé à l'action. Il a reçu une instruction claire de Dieu et il est passé à l'action. Et on pense souvent qu'ils font des grandes actions pour amener les changements là où nous sommes. J'ai suivi une interview du président kényan, Uhuru Kenyatta. On l'avait invité dans une église, au fait. Et quand on l'a invité dans cette église, on lui a donné un mot. Et il a dit, ce ne sont pas les grandes choses qui transforment le monde. Ce sont les petites actions. La fidélité dans les petites choses pendant longtemps, c'est ça qui va petit à petit en train de transformer le monde. On pense qu'ils font vraiment des grandes actions d'éclat pour que le monde change. Mais même les petites actions, les petites responsabilités que Dieu nous a données, quand nous sommes fidèles dans les temps, Dieu peut les utiliser pour apporter des grandes choses, des grandes choses. Donc passons à l'action. Troisième chose que nous voyons sur Josué, c'est que c'était une personne qui s'associait avec les autres. Ce sont des personnes qui associent les autres à la tâche. Ils associent les autres à la tâche. Il n'y a rien, alors rien qui ruine la communauté plus que des responsables qui centrent toutes les tâches sur eux-mêmes. des responsables qui sont seulement préoccupés par leur ego. Moi, je vais être vu. Parce que si nous voulons voir la restauration dans cette nation, le « nous » doit toujours précéder le « moi ». Le « nous » doit toujours précéder le « moi ». Et ça fait partie des choses qui nous font souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans de grandes positions de responsabilité, mais ils ne sont pas encore morts à leur propre ego. Ils veulent être vus. Mais pour que la restauration soit effective, le « nous » doit toujours précéder le « moi ». Proverbe chapitre 18, verset 1 dit « Que celui qui s'isole suit son inclination. Il s'obstine contre toute raison. » Celui qui s'isole suit son inclination. Il s'obstine contre toute raison. Quand vous voyez quelqu'un en train de s'isoler, il y a un appel à toi, il est là pour ses propres intérêts. Il faut faire attention avec ce genre de personnes. La quatrième chose que nous voyons chez Josué, c'est que c'était quelqu'un qui avait des directives claires. Parce qu'après qu'il ait passé du temps avec Dieu et qu'il passe à l'action, il est venu avec des ordres clairs. Ce que le peuple recherche chez les responsables, ce que les gens qui nous suivent recherchent chez nous, ce sont des directives claires. On recherche la clarté. Tunaenda wapi? Quelle est la voie à suivre? Généralement, ce que le peuple recherche chez les responsables, c'est la clarté, la direction à suivre. Et donc, si je peux résumer ces quatre choses que nous voyons chez Josué, la première, c'est qu'il était en synergie avec Dieu. Il était en synergie avec Dieu. La deuxième, c'est que c'était une personne qui était prête à agir en fonction de l'instruction récite de Dieu ou des instructions récites de Dieu. Il est passé à l'action. La troisième, c'est que c'est quelqu'un qui a associé les autres à la tâche. Ce n'était pas un Jacques Boer. Il a associé les autres. Et la quatrième chose, c'est que c'était quelqu'un qui avait des directives claires. Il savait, voici la première étape, voici la deuxième. Mais ce n'est pas seulement Josué que ce texte que nous venons de lire nous présente. Ce peuple nous présente aussi un peuple, un groupe d'individus. Un groupe d'individus. Parce que je l'ai dit au début que la restauration de la nation passe par des individus, oui, des personnes, mais elle passe aussi par un groupe, par des groupes d'individus. Et c'est ça qu'on appelle un peuple. La Bible nous dit, Josué chapitre 1, versets 12 à 15, il dit, Josué dit aux Ribénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Alors, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose de très grand ici, c'est que ces trois peuples que nous venons de citer ici, les Ribénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, ils avaient déjà reçu leur héritage. Ils avaient déjà reçu leur part de la terre promise de l'autre côté du Jourdain. Parce que quand le peuple d'Israël avait vaincu le roi de Og, ils ont approché Moïse et lui ont dit, nous trouvons que cette terre est vraiment très bonne pour nos troupeaux, parce que ces gens ici, c'était des sédentaires. Ils avaient des troupeaux. Ils lui ont demandé, permets à ce que nous puissions nous établir ici. Et Moïse leur a fait faire une promesse. Il a dit, mais comment vous allez vous établir et vous allez laisser vos frères aller à la bataille tout seuls de l'autre côté du Jourdain? Promettez-moi que vous allez aussi les accompagner. Et ils ont fait cette promesse-là. Et c'est cette promesse que Josué est en train de leur rappeler ici. Il est en train de leur rappeler, vous aviez fait une promesse. Même si vous, vous êtes déjà établis, vos frères n'ont pas encore reçu leur part de l'héritage. Et donc, les groupes d'individus qui travaillent à la restauration de la nation, ce sont des communautés qui font du bien-être de la nation tout entière leur préoccupation. Chaque communauté doit faire du bien-être de la nation tout entière sa préoccupation pour que la restauration soit effective. Et ce n'est pas facile, c'est pour ça que Josué est venu leur rappeler de cette promesse. Parce que ce n'est pas facile quand on a déjà sa part, quand on est déjà dans sa zone de confort, de se préoccuper aussi des autres qui sont encore, qui ont encore besoin de faire quoi? D'atteindre vraiment leur promesse. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Nous pouvons être dans la sécurité de notre temple ici, de notre communauté où nous avons toutes ces lumières, nous avons toutes ces technologies et devenir totalement aveugle au fait qu'il y a beaucoup, nombreux de nos frères qui, eux, n'ont pas encore ce confort. Ils n'ont pas encore reçu leur part de l'héritage. Et c'est ce que Josué est en train de rappeler à ce groupe ici, des Rubénites, des Gadites et la moitié des Manassés. Il a dit, vous êtes déjà établis, n'y mouchafika, mais la kini venzenu, abayafika. Et donc, le combat continue. Les autres ne sont pas encore arrivés. La deuxième chose que nous pouvons voir chez un peuple qui travaille pour la restauration ou un groupe d'individus qui travaille pour la restauration de la nation, nous pouvons le lire dans Josué chapitre 1, toujours au verset 17, où ces peuples-là, les Gadites, les Rubénites et la moitié des menacés répondent à Josué et lui disent « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi » comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Ce que nous voyons, c'est que ces gens venaient d'accepter l'autorité de Josué. Ils venaient tous de s'unir. Je vous l'ai dit que pendant qu'ils étaient dans le désert, pendant que ce peuple était dans le désert, ils ne pouvaient pas s'accorder sur beaucoup de choses. Il murmurait à beaucoup de choses. Mais ici, nous voyons un peuple qui est uni. Nous voyons un peuple qui est uni derrière un seul leader. L'unité. Parce qu'ils disent, ils précisent même, ils disent que tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Parce que la deuxième chose que nous, en tant que groupe d'individus, nous, en tant que communauté, nous devons avoir si nous voulons restaurer cette nation, c'est l'unité. L'unité en objectif et en action est la première étape vers la vraie restauration. Le Seigneur, notre Seigneur Jésus, quand il est en train de prier pour ses disciples, sa dernière prière dans Jean chapitre 17 au verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit, pas qu'il soit populaire, pas qu'il soit le plus riche, pas qu'il soit le plus, c'est pas le plus vu, mais il dit afin qu'il soit un comme nous. Afin qu'il soit un comme nous. Au verset 20 de Jean chapitre 17, il continue en disant, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié. Ce n'est pas seulement pour ses disciples, les 12 qui étaient devant lui qu'il a prié, mais il a aussi prié pour nous qui allaient croire en lui par cette parole, par la parole de ceux qui nous ont précédés. Et il continue en disant, afin que tous soient un, afin que nous aussi nous soyons un, comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'ils aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre témoignage est effectif quand nous sommes un. Dans un monde qui est caractérisé par des divisions sur beaucoup de choses, dans un pays qui est caractérisé par des personnes qui ne recherchent que leur intérêt personnel, nous sommes plus que jamais appelés à être un. Nous sommes plus que jamais appelés à être un dans nos objectifs, mais aussi dans notre action pour glorifier le Dieu qui nous a appelés. Parce que le monde se moque de l'Église quand elle est divisée. Il se moque de nous quand nous sommes divisés. Mais ce même monde admire quand des individus qui sont différents en âge, en génération, en tempérament, en habillement, en situation économique, en idéologie politique, sont unis dans la personne et les œuvres de Jésus-Christ.
savez, j'ai passé quelques temps au Kenya et les Kenyans ont souvent l'habitude de dire que nous sommes une nation unie jusqu'au jour des élections. Nous sommes toujours unis, mais jusqu'au jour des élections. Parce que la politique divise toujours. La politique divise. Parce que quand les élections arrivent, c'est là qu'on se rend compte que je suis de telle tribu. Moi, je suis de telle tribu. Il faut que nous aussi, nous ayons des positions dans ces nouveaux gouvernements. Ainsi de suite. Nous sommes unis jusqu'au jour des élections. Mais nous devons aller au-dessus de ces différences-là, idéologiques, politiques et toutes ces choses-là, et nous rappeler que nous avons tous été lavés par le sang de Jésus, et c'est ce sang-là qui nous unit. Parce que notre unité fait partie de la force qui fait de nous des agents de restauration dans ce monde. C'est là que la vraie restauration commence. Parce que nous montrons à ce monde qu'il est possible de vivre dans l'harmonie. Quand ils voient combien nous sommes unis, ils vont se poser des questions sur eux-mêmes. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Ces gens semblent aller tout à fait bien. Ils sont ensemble et ça marche bien. Mais si tungal na pigara tunawana, there's something wrong with us. Il y a quelque chose qui cloche chez nous. Il faut que nous montrions à ce monde qu'il est possible de vivre dans le shalom qui sera complet quand Dieu établira son royaume céleste. Il est possible de vivre dans cette harmonie, même ici sur terre, même ici dans ce monde qui est caractérisé par beaucoup de ténèbres. C'est là que la vraie restauration commence. Et là, je vais finir avec une allégorie. C'est une histoire illustrative, elle n'est pas vraie. On dit qu'un vieil homme, il avait eu l'occasion de visiter le ciel et l'enfer avant de mourir. Et il a rencontré Pierre et Pierre a demandé à cet homme, où est-ce que tu veux aller en premier? En enfer ou au ciel? Et l'homme, le vieil homme a dit, amène-moi d'abord en enfer. Ils sont allés visiter l'enfer. Et quand ils sont arrivés en enfer, le vieil homme a vu une belle salle de banquet. Il y avait des peintures artistiques sur les murs, des listres illuminées, et la lumière, la meilleure nourriture, la boisson que l'on puisse imaginer. Il y avait vraiment des belles choses, une grande table faite, vraiment un festin avec toutes les bonnes nourritures qu'on peut s'imaginer. Alors, à part tout ça, les gens qui étaient autour de cette table, aussi belle qu'elle était, ces gens étaient tout maigres, ils avaient la peau sur les os, ils étaient occupés à girer, à se cracher dessus. Et quand le vieil homme a vu tout cela, il a dit non, 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 amène-moi au ciel, ramène-moi, je veux visiter le ciel, fais-moi sortir d'ici. Amène-moi au ciel. Et Pierre l'a amené au ciel. Et le vieil homme a vu la même image. Les mêmes banquets, la même salle de banquets, les mêmes peintures artistiques, les mêmes listres illuminées, la même lumière, des boissons que le ciel, tout ce qu'il y avait de meilleur que le ciel avait à offrir. Ce n'était pas très différent du banquet qu'il y avait en enfer. Mais quand le vieil homme a regardé les gens qui étaient autour de cette table, ils avaient l'air en bonne forme. Ils étaient en bonne santé. Ils parlaient, ils riaient, ils chantaient. Et le vieil homme a demandé à Saint-Pierre, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je n'ai pas vu beaucoup de différence entre les deux endroits, au ciel et sur la terre, à part le fait que les gens là-bas étaient vraiment souffrants. Au ciel et sur la terre, l'environnement et la nourriture étaient les mêmes. Pourtant, les comportements des gens étaient très différents. Et là, Pierre lui a dit, regarde encore attentivement. Et c'est là que le vieil homme a vu les fourchettes et les couteaux qu'il y avait sur les tables. C'était des fourchettes et des couteaux de 4 pieds. 4 pieds, c'est environ 1,5 mètre. Une fourchette et un couteau de 4 pieds. Ceux qui étaient en enfer étaient tellement préoccupés par leurs propres intérêts qu'ils essayaient de se nourrir eux-mêmes avec ces longues fourchettes et ces longs couteaux. Et ça devenait tellement difficile que personne n'arrivait à se nourrir. Mais ceux qui étaient au ciel avaient compris une chose, qu'avec une longue fourchette, un long couteau, je peux nourrir celui qui est en face de moi et lui, il peut me nourrir. Et c'est pour ça que ces personnes étaient en train de grandir, ils étaient en bonne santé, ils riaient, ils chantaient parce qu'ils ont compris un principe. Ils ont compris un principe que c'est quand nous nous préoccupons aussi des autres, quand nous marchons dans l'unité, que nous pouvons réellement vivre le ciel ici même sur terre. En enfer, tout le monde était tellement occupé à essayer d'obtenir le plus possible pour lui-même que personne n'a rien obtenu. Et là-haut, au ciel, les gens ont nourri les gens qui étaient en face d'eux. Et c'est là même que la paix, la restauration, la vie est venue en abondance. Nous avons besoin que Dieu fasse de nous des personnes qui se préoccupent du bien-être les uns des autres. Que Dieu nous aide à être un. Que Dieu nous aide à être un. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions chanter ce chœur. Dans Toussini, c'est le troisième verset qui dit que d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. 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 Proclamer à tout homme qu'il nous offre les saluts. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse encore une fois entrer dans un moment de prière et demander à Dieu de l'aider. Demandez à Dieu de nous aider à être ces personnes qui sont en synergie avec lui. Demandez à Dieu de nous aider à être ces personnes qui agissent en fonction de la parole que Dieu veut nous donner comme instruction. De demander à Dieu d'être ces personnes qui associent les autres à la tâche. De demander à Dieu de nous aider à être ces personnes-là qui travaillent activement pour la transformation de notre nation. Seigneur, nous avons besoin de toi. La parole que tu viens de nous donner ce soir n'est pas facile, Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est pourquoi nous nous humilions encore une fois devant toi. Enfin, Seigneur, que toi seul, tu puisses nous donner la force de vivre tel que tu veux que nous vivions. Tu as un plan pour ce pays, tu as un plan pour cette nation, tu as un plan pour chaque individu réuni ici en ces lieux, Seigneur. Mais ce plan ne sera possible que si nous nous décidons, Seigneur, de marcher selon tes instructions. Dieu de gloire, viens et rends-nous capables de faire ces choses-là. Viens et rends-nous capables d'être ces personnes, ces agents de transformation partout où nous allons, oh Dieu de gloire. Prends contrôle, oh Dieu de gloire. Prends contrôle, oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons encore une fois que tu puisses encore une fois rafraîchir encore la force et l'élan de ton esprit en nous, Seigneur, afin que nous puissions être efficaces pour la tâche à laquelle tu nous appelles, ô Dieu de gloire. Viens, Seigneur, et agis parmi nous, Seigneur. Viens et agis parmi nous. Viens et agis parmi nous, ô Dieu de gloire. Fais de nous, Seigneur, un peuple qui est uni, afin que quand ce monde va voir combien l'harmonie et l'unité est possible dans ton Église, Seigneur, qu'il puisse réellement être intrigué, Seigneur, et qu'il puisse être influencé positivement, ô Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur, que cette unité, Seigneur, que tu vas créer en nous, Seigneur, puisse réellement impacter ce pays qui est caractérisé par des divisions de toutes sortes, ô Dieu de gloire. Viens, Seigneur, et agis parmi nous. Agis, Seigneur, en nous et pour nous, ô Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dont nos actes sont empreints. Que le Seigneur bénisse sa parole.